Bonsoir les amis, vous écoutez Morceau Choisi Tonight et vous l'avez remarqué, c'est l'été. Alors l'été en général, ce sont les rediffusions. Bon, cela étant, moi, le terme de rediffusion, j'aime pas trop parce que ça fait un peu vieillerie, ça fait un peu vieux rogaton, ça fait un peu les restes qu'on accommode comme ça parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Donc alors peut-être une autre façon de nommer ce type d'émission serait de dire plutôt les best-of. Best-of, là, ça pose son nom, quoi. Ça a de la gueule. On voit best-of, ça claque. Alors, je ne sais pas exactement ce que je vais y mettre dans ce best-of. Je vais improviser. Hein. Et il y aura probablement un peu de Cavana, un peu de Frédéric Dard, et puis après, on verra bien. En tous les cas, ce sera un peu léger, ce sera un peu dévêtu, un peu naughty, comme on dit, ce sera un peu avec un peu de cul, quoi. Enfin, puisque c'est ça, l'été, toutes les revues vous font des pages spéciales été, comment draguer votre copine, faire des rencontres à la plage ou au bistrot le soir, etc., etc. Donc ce sera... Il y aura quelque chose peut-être qui sera de cet ordre-là. Et j'espère que cela vous plaira. Mais avant de démarrer l'émission proprement dite, je voudrais saluer chaleureusement Francis à la technique et Francis, mon partenaire habituel, tous deux partis en vacances. Eh bien voilà, place au best-of. À tout à l'heure.
When the rain stopped dropping, knock at the window, knock at the door. Crying, brother, no, can you take on more? No, sorry, my friend. God got the key and you can't get in. It's little rain, and well, little rain. Ah, little rain. Bring the news up and out in the way he flew. Went to the heat, went to the west. Put your weight, God love you best. Hey, lips to the rain. Hey, lips to the rain. Yeah, hey, lips and lips to the rain. Hey, lips and lips to the rain. Hey, lips to the rain. Lips and lips to the rain.
Tous la télé et vous êtes tous de gros dégueulasses. Je veux dire des obsédés sexuels. Ça nous rapproche. On va causer cul. Chic chic. Pas cul clandestin, pas cul de bouche à oreille, pas du tout. Cul officiel, cul de bon ton, cul qui passe sur le petit écran à l'heure du journal télévisé, à l'heure où les petits enfants hésitent entre la triste banane et le triste yaourt avec des vrais fruits. On va causer présentation de mode. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la haute couture n'était alors que furtivement présente à la télé, ce qui d'ailleurs vous excluait d'office, vous autres purotins de la délectation de ces merveilles. Alors, je vous raconte. Un défilé de mode, c'est une succession de longues silhouettes asexuées, squelettes sans forme à la démarche de sous-off anglais, à la morgue qui se voulait aristo, au regard vide perdu dans les espaces, voulant ignorer qu'il y eût un public et que tout ce cinéma était fait pour l'épater. Des porte-manteaux articulés, quoi. Un défilé de mode tenait de la messe des morts et de la reconnaissance du cadavre à la morgue. Vous voyez l'ambiance. Bon, faisons un saut dans l'hyperespace. Nous revoilà aujourd'hui autour de la table. Le gosse a finalement choisi la banane, mais maintenant il voudrait bien aussi le yaourt avec les vrais fruits. Et sur l'écran magique se déhanchent, sur leurs talons aiguilles, de splendides salopes, au sourire soleil, aux yeux, nom de Dieu, les yeux, avec des regards qui promettent tout, et rien que pour toi, du gland, rien que pour toi, et ses nibards, et ses hanches, et ses fesses, tout ça, tout ce sexe, plein la boîte, plein la turne, plein ton falzar, cochon, tu triques comme un malade, c'est Babylone, c'est Byzance, c'est le Crazy Horse. Et des guiboles, putain de ta mère, je t'ai dit les guiboles, qui montent tout droit jusqu'au ciel, tu les escalades sans respirer, et alors ses cuisses, tout là-haut, ses cuisses, oh maman. Et ce ventre, ce petit ventre rond, dur, pointu, projeté en avant, rein creusé, l'étoffe collée au nombril, salope, 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 et ses loques, ces bouts de chiffon des mille et une nuits qui te montrent tout mieux qu'à poil, te le magnifie, te le transfigure. Tu ne vois pas la touffe, mieux, tu la devines, centrale, triomphante, obsédante. Elles marchent comme des reines de Saba, pas celles d'Angleterre. Tangue des hanches, roule du prose. Les nibards ne se contentent pas de pointer le nez, ils se balancent au grand air, chacun pour soi, mignon comme tout. De toutes les couleurs, les gueuses sublimes, de la noire crépue ou lisse, de la jaune, de la rouquine, dont l'odeur sauvage perce l'écran. Le choix, quoi, comme chez Madame Claude, sauf que tes glandes, près d'exploser, tu les videras dans bobonne, tout à l'heure. Tout ça, ce stupre somptueux pour apparemment présenter des sapes. Les loques du prochain printemps. Là, je me demande, qui va porter ça? Les filles Monaco? Les harems des caïds du pétrole? À ton avis? En tout cas, de ces sapes-là, j'en vois jamais dans le métro. Même pas sur les trottoirs des quartiers riches. Même pas sur les dadames de nos édits la corruption. Le fric de la corruption, c'est pour se payer des pavillons de banlieue à 300 briques. Pas pour mettre de la poésie autour du casse-croûte conjugal. Pour Madame Président... Strict tailleur Chanel d'hôtesse de l'air, le peuple est sot, il ne voterait pas pour un sale con qui s'enverrait une déesse légitime. Ah, il est loin le temps où la femme de l'empereur s'appelait Messaline et où la plaie hurlait d'enthousiasme quand elle trônait tout à pas à l'air aux côtés de son tyran épanoui. En notre ère puritaine, un mari qui fait dans la politique ou les affaires, ça ne peut pas exhiber une pute sapée en pute, même un tapis n'oserait pas. Ça en entretient une, bien sûr, mais dans une relative clandestinité, ce qui exclut les sacs géniaux de Paco Rabanne et consorts. Le fric qu'il nous fauche, les honorables crapules, ce n'est pas pour l'enfouir dans un trou sans fond avec du poil parfumé autour. Ils sont trop rikiki, trop contre ses sous. Ils investissent dans du sûr, comme un gain petit qui arrondit sa future retraite. Alors il fauche pour le parti, un peu, à alibi noble et beaucoup. Pour le, comme je vous disais, pavillon de banlieue sur la côte, avec plage privée, piscine à vagues et criss-craff à ski nautique. Minable. Alors dites-moi, Paco Rabanne, Saint-Laurent et les autres, ils les dessinent pour qui, leur merveille à réveiller les virilités chancelantes hein? Moi, je dirais, mais peut-être que je déconne, pour la télé. C'est-à-dire pour toi, pour moi, qui n'achèteront pas. Pour le prestige du nom, pour le « ça c'est Paris ». Pour laisser un souvenir ébloui à Bobonne, à qui son cadre, habituellement fatigué, aura livré à domicile et sur le champ une tringlée Maus à la Cosaque, si ça se trouve, devant les enfants. Du coup, la voilà émue en sympathie. Le réflexe conditionné jouera, elle achètera tout ce qui porte la griffe prestigieuse. Et il y en a de la pacotille. Parfums, foulards, eau de toilette, shampoings, cosmétiques, montres, briquets, bijoux, fantoches... Enfin, tous ces menus bricoles qui sont aujourd'hui la vraie raison sociale des maisons de couture. Vous aimeriez qu'on hissât le départ jusqu'aux sphères de l'universel, je vous connais. Ils sont. De là-haut, que constatons-nous? Nous constatons que l'érotisme conquiert jour après jour de nouveaux domaines.
Le cul fait vendre, et partout, et de tout. Et je t'emmerde. L'austère et désincarnée haute couture y est venue. Elle qui pourtant ne s'adresse qu'aux femmes. C'est parce qu'on s'est aperçu avec surprise et ravissement que l'image euphorisante pour l'esprit, donc stimulante pour l'acte d'achat, est la même pour les deux sexes. Une belle fille, superbandante, irradiant le stupre. L'homme y voit ce qu'il désire posséder. La femme y voit ce qu'elle désire être. L'homme est le prédateur, la femme la proie. Chacun bien installé dans son rôle. Et tous les raisonnements des féministes se cassent le nez devant cette démonstration pratique. Les créateurs de la pub savent ce qui fait vendre, ils n'ont pas le droit de se tromper. Il nous faut terminer par une moralité, ça se fait. Alors voilà, méprise la pub, petit gars, n'achète pas les merdes qu'elle vante, mais goinfre-toi des cadeaux intéressés qu'elle te fait, la vieille maquerelle. Contempler une femme, c'est la posséder. Plus elle t'en donne à voir, plus tu te régales. Le désir qu'elle éveille, même inassouvi, même sans espoir, c'est déjà du plaisir. Un autre plaisir, tu ne la niqueras pas. Ne te prive pas de la lécher, tu ne la lécheras pas. Ne te prive pas de la regarder. L'état d'excitation sexuelle est en soi un accomplissement. De toute façon, on ne peut pas les baiser toutes. Mais les désirer, ça, on peut.
Au commencement des commencements, quand un homme désirait posséder un objet qu'un autre homme possédait, par exemple sa part de roc tuée à la chasse, ou sa descente de lit en peau de léopard, ou une de ses femmes, la petite avec un grain de beauté qui tortillait si joliment des fesses, ou son couteau de silex à huit lames, eh bien la seule façon de procéder qui s'offrit à lui consistait à prendre cet objet par la force, s'il était suffisamment musclé, par la ruse, s'il était suffisamment rusé. D'une façon comme de l'autre, il lui fallait s'approcher tout près de cet autre homme, car, en ces temps circonspects, chacun gardait ses trésors tout près de sa personne et ne s'en séparait jamais. C'était, vous l'aurez compris, un exercice fort dangereux. Devenir riche par ce moyen exigeait beaucoup de courage et de détermination. S'il s'agissait de la femme, par exemple, celle aux graines de beauté, oui, il pouvait très bien se faire qu'elle se mît à crier. Vous savez comme elles sont, hein ? Et il s'en suivrait un certain désordre peu propice aux affaires. Cette façon d'agir, allez savoir pourquoi, bien que simple et efficace, était mal vue de ceux qui possédaient des choses, surtout de ceux qui en possédaient beaucoup. Ceux-là ne se déplaçaient qu'entourés de tous leurs biens, certains inertes comme les menhirs et les statues de leurs bons dieux, d'autres mobiles comme leurs femmes, leurs maîtresses et leurs petits-enfants. Les biens mobiles portaient sur leur dos les biens inertes. Il faut de l'organisation dans la vie. Ah oui, les hommes qui possédaient des choses avaient flétri ceux qui essayaient de s'approprier ces choses du vilain nom de voleur. C'est celui que nous emploierons désormais dans la suite de cet exposé. Les voleurs, donc, prenaient de gros risques. S'ils se faisaient prendre, on leur coupait je ne sais quoi et ils devenaient eunuques au service du possesseur des biens qu'ils avaient voulu voler. Cela dura longtemps ainsi. Cela aurait pu durer toujours. Mais les ressources de l'esprit humain sont infinies. Un jour, un voleur qui suivait depuis un bon bout de temps un possesseur d'une grande quantité de biens, tant mobiles qu'inertes, les uns portant les autres, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, un voleur, répétais-je, qui désespérait de pouvoir mettre la main sur l'objet qu'il convoitait tout spécialement, en l'occurrence une superbe rousse odorante portant un demi-mammouth sur la tête, s'avisa soudain qu'une autre des choses mobiles femelles, appartenant visiblement à ce gros type, s'était arrêtée au bord du sentier et, assise sur un gros caillou qui se trouvait là, était fort occupée à extraire une épine de son pied d'albâtre. Elle était superbe, apparemment en excellent état de fonctionnement. Le premier mouvement du voleur fut un réflexe de voleur. Son deuxième mouvement fut que cette femme était brune, d'un brun profond. Or, lui, c'était la rousse qu'il désirait. Sous l'emprise de la déception, il leva sa massue pour écraser cette malvenue et resta le bras en l'air. Une idée lui était venue. Cette idée était comme, je vais vous le dire, la femme brune ne portait aucun fardeau. De surcroît, ses poignets étaient ornés de bracelets où alternaient l'améthyste et l'os de poulet, tandis qu'à son cou d'albâtre, aussi, oui, elle était toute en albâtre, pendait un somptueux collier de tête de lapin et d'émeraudes, assez belle ma foi. De l'observation rapide de ces détails, ce voleur déduisit. On ne savait pas encore déduire, mais il était en avance sur son temps. Et la preuve, déduisit donc que cet objet mobile femelle au poil noir devait représenter une valeur sentimentale très grande pour son possesseur. Et que donc... Mais voyons-le agir. La femme brune l'avait aperçu. D'un bond, elle s'était levée et ouvrait la bouche pour crier, comme elles font toutes, rappelez-vous. Il la fit taire comme ils font tous, d'un bon coup de massue là où ça se donne, pour faire taire sans abîmer la marchandise, et juste assez fort pour obtenir le résultat souhaité. Ceci accompli à la satisfaction générale, notre voleur, je peux bien dire notre, hein, maintenant on se connaît, chargea la dame brune sur son épaule et l'emporta en lieu sûr qu'il savait. L'y dissimula avec soin et courut rejoindre le gros père et sa riche caravane. Arrivé à portée de voix, il cria « Oh, toi, un tel, n'as-tu rien tu perdu ?» Ainsi interpellé, avec une familiarité frôlant la grossièreté, cet homme, qui ne s'appelait même pas un tel, si ça se trouve, fit du regard le tour de ses richesses, en comptant sur ses doigts. Il fut bientôt renseigné. Il pâlit. « Monique ! Où est Monique ?» Le voleur demanda « Monique, c'est la grande brune avec le collier et les bracelets ?» Le Richard confirma « Mais c'est elle, ma Monique, sais-tu où elle est, au voleur ?» Le voleur ricana Je le sais, ô riche, et même moi seul le sais. Elle te sera rendue si tu me donnes la rousse odorante. Si tu refuses, je la tue. Si tu me fais du mal, elle mourra de faim. Voilà, c'est un bon plan. J'espère que je ne me suis pas trompé quelque part. Le riche réfléchit, et ne trouva aucune autre solution au problème que celle suggérée par le voleur. Ainsi fut fait. Le chantage aux otages était né. On ne sait pourquoi cet ingénieux et économique moyen de pression n'eut longtemps qu'un usage limité. Ce n'est qu'au XXIe siècle que les hommes comprirent vraiment ce qu'il pouvait être. Un terrible instrument de guerre. Un instrument de guerre qui efficace les suprématies militaires, qui joue uniquement sur la sensibilité des peuples et la couardise des dirigeants. Un tout petit groupe met la main sur une poignée de citoyens d'un puissant pays et dit « Si vous ne nous donnez pas ça et ça, nous les tuons !» Quoi que fassent les dirigeants, ils auront la moitié du pays contre eux. Vous, au nom de la laïcité, interdisez à l'école un usage que notre Dieu à nous nous prescrit. Or, pour nous, Dieu prime tout, y compris ce que vous appelez laïcité. Et nous utilisons le chantage aux otages pour vous forcer à céder. C'est la fronde de David contre Goliath. Après tout, les grandes puissances ont joué assez longtemps du chômage nucléaire. Chacun son tour.
On soupçonne les fourmis d'être télépathes, de communiquer entre elles, et de s'alerter quand il y a un bon coup à jouer, un reste de nourriture au sol. Voilà comment elles se retrouvent rapidement par centaines autour d'un bout de pain oublié. Gageons que les fourmis sont également télépathes avec les humains, et qu'elles captent nos pensées avec leurs petites antennes. Elles savent ainsi très tôt que nous avons l'intention de pique-niquer et où. C'est pourquoi elles sont déjà là, à pied d'œuvre, dès que la nappe est étalée sur le sol. Elles se lancent à l'assaut, les voici partout sur le poulet, nageant dans la mayonnaise, glissant au fond des verres de vin. Le pique-nique est régulièrement un échec, c'est une loi non écrite. Nous n'avons plus qu'à remballer Mossad. Une fatalité ? Non. Préconisons la stratégie suivante. Et jamais les participants à un prochain pique-nique ne devront évoquer leur projet entre eux, ni même y penser. Le mot devra être banni. Il leur faudra afficher des pensées écrans. Par exemple, en achetant le poulet, se concentrer sur le repas dominical chez belle-maman, où l'on est censé apporter le volatile. De même, chacun des convives du PN, ne jamais prononcer le mot, se rendra par un itinéraire différent sur le lieu du hum-hum, empruntant un chemin de traverse à la dernière minute, après une embardée, pour foncer à toute blinde dans les ornières. Les voitures à peine garées, chacun sortira en trombe qui la glacière, qui les baguettes de pain, le troisième jetant la nappe au sol comme on plaque au rugby. Nous garantissons que les fourmis seront bien bernées, vraiment roulées dans la farine. Quand enfin elles parviendront sur les lieux, ce sera pour enrager de voir les voitures déjà repartir, au terme d'un pique-nique parfaitement réussi, dont témoigneront les joyeux bras d'honneur adressés par les vitres baissées.
Living in a world of pain. show. I ain't figured out yet where you've been pointing me to go. Somebody tell me how to get to know. It ain't funny.
It ain't funny.
You might even catch the blues.
Lapsus. La langue française multiplie les sous-entendus graveleux. On les connaît, ces mots anodins qui donnent à entendre d'autres choses que la bienséance réprouve. Cubiténaire, concupiscent, sustenté, belliqueux, pinailleur, etc. C'est comme si la langue française, longtemps corsetée par la morale, s'exprimait de manière subliminale. Rendez compte de l'inconscient collectif par les fissures sémantiques les moins repérables, pour qu'affleure, malgré tout, cette part obscure, organique, sous une grammaire cérébrale et castratrice. Les langues auraient ainsi leur existence psychique propre, une surface acceptable, consensuelle, rien d'érotique dans ce mot, et des soubassements où grouilleraient dans une fange hypertextuelle nos pulsions animales. Le langage est une création de l'homme à son image. Il était inévitable qu'il lui renvoie aussi le reflet de sa part sauvage.
Pap 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 p
Je suis là aujourd'hui pour rendre compte au peuple américain des incroyables progrès réalisés depuis mon investiture il y a 4 semaines. Nous avons fait des progrès incroyables. Je pense pas qu'il y ait jamais eu de président élu qui, en si peu de temps, ait fait ce que nous avons fait. Un nouveau sondage Rasmussen, en fait, parce que les gens comprennent, la plupart des médias ne comprennent pas. En fait, ils comprennent, mais ils ne l'écrivent pas, disons ça comme ça. Mais un nouveau sondage Rasmussen vient d'être publié et il évalue notre taux d'approbation à 50% en hausse. La bourse a atteint des niveaux records, comme vous savez, et il y a eu une formidable poussée d'optimisme dans le monde des affaires, ce qui pour moi a une signification très différente d'avant. Avant, ça voulait dire « oh, c'est bien ». Maintenant, ça veut dire « oh, c'est bien pour l'emploi ». Très différent. Les usines commencent déjà à revenir aux États-Unis de la première classe. Ford, General Motors, et il y en a plein. Je fais ce compte rendu directement au peuple américain en présence des médias, ce qui est un honneur parce que beaucoup de reporters et des gens de notre pays ne vous diront pas la vérité et ne traiteront pas le peuple merveilleux de notre pays avec le respect qu'il mérite. Malheureusement, une grande partie des médias de Washington, de New York et de Los Angeles en particulier ne parlent pas pour le peuple, mais pour les intérêts particuliers et pour ceux qui profitent d'un système de toute évidence très, très cassé. La presse est devenue si malhonnête que si nous n'en parlons pas, nous rendons un terriblement mauvais service au peuple américain. Terriblement mauvais service. Il faut qu'on se parle pour voir ce qui se passe, car la presse, honnêtement, est hors de contrôle. Le niveau de malhonnêteté est hors de contrôle. Comme vous le savez, notre gouvernement a hérité de nombreux problèmes dans l'État et dans l'économie. Pour être honnête, j'ai hérité d'une vraie pagaille. C'est la pagaille. Chez nous et à l'étranger, la pagaille. Les emplois quittent le pays en masse. Vous voyez ce qui se passe avec toutes les entreprises qui quittent notre pays, qui vont au Mexique et ailleurs. Bas salaire, énorme instabilité à l'étranger, partout où l'on regarde. Le Moyen-Orient est un désastre. La Corée du Nord, on va s'en occuper les gars. On va s'occuper de tout. Mais il faut que vous le sachiez, j'ai hérité d'une vraie pagaille. Je l'ai expliqué au peuple américain. J'ai eu 306 voix au collège électoral. Je ne devais même pas en avoir 222. On m'avait dit que je ne pourrais pas en avoir 222. 230, impossible. Il en fallait 270, on m'a rionné. Mais on a eu 306. Parce que les gens sont allés voter comme jamais. Et c'est comme ça. Je pense que c'est la plus grande victoire électorale depuis Ronald Reagan. Autrement dit, les médias essayent d'attaquer notre gouvernement parce qu'ils savent que nous tenons nos engagements et ça ne leur plaît pas, pour une raison ou une autre. J'allume la télévision, j'ouvre les journaux et on y parle de chaos. De chaos! Alors que c'est exactement le contraire. Cette équipe fonctionne comme une machine parfaitement au point malgré le fait que j'arrive pas à faire confirmer mon gouvernement. J'ai été élu pour défendre mon pays. Je tiens mes promesses de campagne et nos concitoyens seront très heureux quand ils verront le résultat. Et ils le sont déjà, je peux vous le dire. Un filtrage rigoureux de l'immigration sera mis en place et il l'est déjà dans beaucoup d'endroits. En fait, nous avons dû aller plus vite que prévu à cause de la mauvaise décision qui nous arrivait d'une juridiction dont les décisions sont annulées en nombre record. J'ai entendu dire 80%, ça me paraît difficile à croire, c'est juste un chiffre que j'ai entendu. Elles sont annulées 80% du temps.
Je crois que cette juridiction est en plein chaos, franchement. Mais on a fait appel et on ira plus loin. Ce dernier mois a représenté un niveau d'action sans précédent de la part des grands citoyens de notre pays. Je le dis à nouveau, il n'y a jamais eu une présidence qui ait fait autant en si peu de temps. On n'a même pas encore commencé le travail de fond. Ça commence au début de la semaine prochaine. Quelques très grosses choses vont être annoncées la semaine prochaine, donc on ne fait que commencer. Sur ces paroles, je dirais que Dieu bénisse l'Amérique.
Well, is the boy, my friends, it been good being here with you. Now that I've got to leave, it's the end. Seeing you again, well, it's so long for now. It's been good having you so near. Just one more song for you. Hear my best, take good care, have no fear.
Lors de la convention de l'Association internationale des philologues qui s'est déroulée à Lucerne en avril dernier, 1923-1925, le professeur Erik Nunsen de l'université du Holm a lâché une véritable bombe. Dans une communication intitulée « Langues aryennes », c'est drôle de vieillerie, le professeur Nunsen a en effet déclaré qu'entre le groupe de langues chaméniques et le groupe de langues ouralo-altaïques, devrait logiquement s'intercaler un autre groupe, jusqu'alors non répertorié, le groupe semi-huintuic. La communication du professeur Nunsen faisait suite à un numéro intitulé, d'après le programme, Al Oates et ses 6 patineurs musicaux. Selon l'éminent philologue, nous avons par le passé accordé trop d'attention au mot racine. Nous appelons mots racines ces mots qui ressemblent à des sortes de racines quand on les dessine. Ces mots réapparaissent sous une forme similaire dans toutes les langues qui appartiennent à un groupe déterminé. Par exemple, dans le groupe des langues aryennes, comparez l'anglais Dichtowel, le gothique Dersterl, l'allemand Dichtdol, le latin Dektola, le français Ditoal, l'arménien Dachtaler, le sanskrit Ditol et le hollandais Dochtoler. Dans tous ces mots, vous remarquez la même absurdité. De la même manière, on peut facilement trouver des similitudes entre les langues d'un même groupe si l'on sait que dans le groupe sémitique par exemple, le F fondamental en arabe devient W en assyrien et le G majuscule en phénicien devient un petit G en abyssinien, ce qui d'ailleurs a compliqué la vie des voyageurs de commerce assyriens qui ne savaient plus où accrocher leurs affaires. Dans son intéressant travail de recherche, les mutations de la syllabe Bib en 2000, entre 2000 et 500 avant Jésus-Christ, Landok Downs retrace l'utilisation de la lettre H d'un bout à l'autre du Proche-Orient, puis, suivant le chemin de la migration caucasienne jusqu'en Europe centrale où il perd la piste. Pendant environ 2000 ans, nous avons trouvé aucune trace de l'usage de la lettre H par les Nordiques. Cela ne doit pas être, peut-être pas, nous surprendre outre mesure, car les Nordiques, à l'époque, n'avaient de toute façon pas l'usage de grand-chose. Pardon. Et soudain, environ 1200 ans avant Jésus-Christ, la lettre H réapparaît au nord de l'Ohio, cette fois sous le pseudonyme M, érasé de frais. Cependant, personne ne doute qu'il s'agit là du vieux H bantou, sous un déguisement. Nous pouvons ainsi certifier que les deux peuples, les Suisses et les autres, sont en réalité issus de la même lignée. N'importe qui peut le voir, ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Au dire du professeur Nunsen, il y a donc de fortes probabilités pour que cette transformation des mots racines, provoquée par le passage des langues aryennes au nord du Danube, du Dieppe et du Don, irrita tellement le groupe chamitique, qui inclut l'ancien égyptien, le copte, le berbère et Otto-Kan, qui se mirent à ne plus prononcer le G final par pure méchanceté. Cette élision conduisit, au bout de quelques siècles, à la formation d'un groupe linguistique distinct, que le professeur Nunsen appelle semi-huintique, et pas totalement huintique, car il conserve certains traits du chamitique ancien. Il est seulement semi-huintique, même semi est déjà trop fort. Certes, cette démonstration ne prend pas en compte le groupe ouralo-altaïque. C'est en effet le cas. Personne ne le fait jamais. Ce groupe comprend le lapon, le savoyard, le magyar et le tartare. Et comme l'explique bien le docteur Knilan Renfrey dans son « Langues inutiles, leurs origines et leurs excuses », cela ne sert à rien de se casser la tête avec le groupe ouralo-altaïque. Le professeur Nunsen peut donc légitimement ignorer la question des genres grammaticaux. Et c'est d'ailleurs sur ce point qu'il fonde sa découverte de l'existence des langues semi-huintiques. Selon lui, ces langues sont monosyllabiques et dépourvues de toute flexion. C'est le ton utilisé pour prononcer un mot qui détermine sa signification. Elles sont en cela similaires à la langue chinoise. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle la Chine est si éloignée du continent européen. Ainsi, le mot « resil », prononcé sur un certain ton, signifie « tiens, voilà le facteur ». Sur un autre ton, « j'ai perdu un de mes deux boutons ». Et sur un troisième ton, il signifie « encore toi ». Alors, on comprend donc combien il est difficile pour un philologue de faire plus que deviner ce qu'étaient réellement ces langues oubliées. Et il ne peut même pas être sûr qu'elles aient effectivement été oubliées. S'il s'avérait qu'elles ne l'aient pas vraiment été, alors c'est le professeur Nunsen qui serait bien eu. Il se serait donné tout ce mal pour rien.
Here's some Buicks, a combination that I love. It's a combination that I love. Come on and ride with me, be my little turtle dove. I love my Buick, but it's you who makes me wanna cruise. I love my
It's you who makes me wanna cruise. Let's take a ride downtown. I know it'll be high voltage news. That I love. Come on a ride with me. Be my V8 turtle dove.
Garde chasse au Madère. Mettez dans la marmite un morceau de beurre ou de bonne graisse. Lorsqu'il est fondu, placez-y un morceau de garde chasse d'une livre et demie et laissez-le bien jaunir sur les côtés. Lorsque la couleur vous plaît, ajoutez quelques verres de Madère. Laissez jaunir encore et rajoutez du Madère. Salez, poivrez, ajoutez un ou deux oignons, un petit verre de Madère. Laissez cuire pendant 2 heures environ en prenant un petit verre de Madère de temps en temps pour tenir. Retournez la viande pour qu'elle soit bien dorée partout. Servez dans un bois creux sans oublier le Madère.
Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song, a melody haunts my reverie. And I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration, but that was long ago. And now my consolation is in the stardust of a song beside a garden wall when stars are bright. You are in my arms, the nightingale tells this fairy tale of paradise where roses grow. Though I deem in vain, in my heart it will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain.
Da da da.
Les amis, c'est fini pour aujourd'hui et ça s'est terminé avec une bossa d'Ella Fitzgerald. Voilà. Donc c'était un morceau choisi tonight spécial Best of Festival. Voilà, de toutes les bonnes radios font ça, des rediffusions. J'ai pas trouvé totalement tout ce que je cherchais, mais voilà, bon, l'un dans l'autre, je trouve que ça se tient. Allez, à la prochaine, salut.